Bienvenue à toutes et à tous. Notre matinée ce matin est occupée à goûter les conférences de deux professeurs de théologie, chacun dans son domaine. À titre personnel, mais aussi au nom du Studium de Notre-Dame de Vie, je suis très très heureux d'accueillir le Père José Noriega. Il est extrêmement difficile de tenir à jour sa bibliographie, puisque en arrivant, il vient de me remettre les deux derniers livres qu'il a écrits. Mais je vous dis pas les titres. Le Père Noriega écrit aussi bien en italien qu'en espagnol et peut-être dans d'autres langues. Il a fait sa thèse sur ceux qui sont agis par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, la place de l'Esprit Saint dans la compréhension de l'acte moral chez Thomas d'Aquin. Il enseigne, et plus que ça, il a un rôle très important dans le fonctionnement et l'animation de l'Institut pontifical Jean-Paul II, pour les études sur le mariage et la famille. Il appartient à une famille spirituelle qui s'intitule l'Institut religieux des disciples des cœurs de Jésus et de Marie. Et c'est d'ailleurs en découvrant l'un des livres écrits par leur équipe, qui s'intitule « Minorias creativas », les minorités créatives, que je me suis senti l'élan et la joie de faire sa connaissance, leur connaissance, et de l'inviter à venir ici. Donc, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de ce que vous allez nous dire autour du thème, si j'ai bien compris, du lien entre l'expérience de Dieu et finalement la construction de l'Église.
Merci, mon père. Et je vais vous transmettre la gratitude d'être avec vous, à vous-même et aussi au père Lefebvre. Et c'est une opportunité de connaître le bon travail que vous êtes en train de faire ici. Et le père Étienne m'avait demandé de parler sur Thérèse de Jésus comme une minorité créative avec les fondations qu'elle a faites. Mais je me disais, je suis amoureux de Thérèse, mais je ne suis pas un spécialiste. Alors, je ne peux pas parler sur Thérèse de Jésus comme une source de minorité créative. Et pour cette raison, je le disais, je puisse parler de l'union avec Dieu comme source de la minorité créative. Il me disait, très bien, vous parlerez sur cela. Alors, je suis ici pour parler comment l'union avec Dieu, c'est la source de la minorité créative. Bien. Et vous savez que lors de son voyage à la République tchèque, le pape Benoît a voulu répondre à la perplexité des journalistes qui lui demandaient pourquoi un voyage pontifical dans une nation qui n'est pas chrétienne. Et il disait, le pape, « Je dirais que normalement, ce sont les minorités créatives qui déterminent l'avenir. » Et en ce sens, l'Église catholique doit se sentir comme une minorité créative qui possède un héritage de valeurs qui ne sont pas les choses du passé, mais qui sont une réalité très vivante et actuelle. Le pape reprenait la réponse que des années auparavant, l'historien britannique Arnold Toynbee avait donné à l'interprétation du processus vital de toute civilisation avancée par les philosophes et mathématiciens allemands Oswald Spengler. Selon ces dernières, en effet, toute civilisation naît, grandit, atteint une phase d'épanouissement, suivie par un lent engourdissement qui débouche sur un état de vieillesse et s'achève enfin par la mort. Il s'agirait d'une loi inexorable, comme pour tout organisme vivant. Ainsi, selon cette loi, il sera possible de prévoir le futur de l'Europe. L'Occident serait entré dans un processus de vieillissement le conduisant à la mort. Donc l'évolution ne peut être interrompue. Il ne resterait plus que gérer la décadence. L'historien britannique, au contraire, s'oppose à cette vision biologiste, non pas en niant ce processus vital qui caractérise toute civilisation, mais plutôt en affirmant que ce processus de naissance, croissance, effondrement et mort n'est pas inexorable. Il envisage, comme pour les êtres vivants, la possibilité de soigner la cause de l'effondrement et donc de se régénérer en tant que civilisation. Par conséquent, le cycle vital d'une civilisation n'est pas une donnée de fait, mais il dépend des personnes, ou mieux, des minorités créatives qui les composent. La solution pour l'Occident ne consisterait donc pas à gérer la décadence, mais plutôt à générer des minorités créatives qui soient en mesure de donner l'espoir. Benoît XVI voulut donc reprendre la polémique et l'appliquer à la situation ecclésiale de la République tchèque, en considérant la réalité même de l'Église comme une minorité ayant un grand pouvoir créatif dans la société et donc étant capable de la régénérer. Toutefois, la solution du pape ne fut pas favorablement accueillie dans les milieux ecclésiaux des pays traditionnellement catholiques et elle fut vite mise sous silence. On parlait du danger des élitisations du peuple de Dieu, des conséquences négatives qu'aurait provoqué le fait de reconnaître que l'Église n'était réduite à une minorité et donc à perdre son influence sociale. On parlait aussi de l'ambiance défaitiste que se serait instaurée auprès des fidèles par la diffusion d'une mystique de l'échec qui aurait affaibli le lien missionnaire. Ou encore du danger de ghettoisation qui aurait conduit à renoncer à la vocation universelle. Mais n'est-ce pas le témoignage de l'Église depuis ses origines? Dieu ne choisit que quelqu'un pour arriver à tous. L'Église n'a-t-elle pas été pendant 20 siècles l'âme de la société grâce aux minorités créatives qui, en son sein, se sont constituées? Antoine, Benoît, François, Dominique, Ignace, Thérèse, José María, Marie Eugène, Luigi, Chiara, Kiko ont été l'élévant dans la pâte. La fécondité de l'Église en tant que minorité créative a permis de générer une façon humaine de vivre en plénitude à laquelle d'autres ont pu prendre part. Quel est donc son secret? Où plonge la source de sa fécondité? La réponse est claire. Ce n'est pas une question de stratégie, mais il s'agit plutôt d'un don que nous recevons de Dieu et qui nous unit à lui. Cependant, de nos jours, cette réponse paraît ambigu. Un court-circuit culturel nous empêche de voir et de comprendre ces rapports avec l'origine et avec la fin de la vie comme étant une source de créativité. La cause de l'effondrement de notre civilisation réside dans le fait que culturellement, il semblerait que Dieu a cessé de faire grande et belle la vie, pour se transformer en un refuge où trouver la paix et la sérénité. Aujourd'hui, l'expérience chrétienne a été réduite beaucoup de fois à un processus d'intrinsécisme tel que le définit Blondel. Ainsi, pour redécouvrir la source de la créativité de l'Église comme minorité, il faudra tout d'abord comprendre le don reçu, c'est-à-dire la charité qui nous unit à Dieu. C'est la première partie. Dans un deuxième temps, nous essayerons de comprendre quelle est la nouvelle sensibilité que cela engendre chez les chrétiens. Et enfin, sa façon spécifique d'être communiquée par le biais des pratiques. Alors, je voudrais expliquer d'un point de vue de réflexion théologique pourquoi l'union avec Dieu, c'est la source de la minorité créative. Et pour faire cela, je dois commencer avec le livre de Motu Animalium d'Aristote. Pourquoi? Parce que par saint Thomas d'Aquin, ce livre était si important pour comprendre beaucoup de choses. Aristote se demande pourquoi est-ce que l'animal, le lion, se lève et commence à courir, saute sur l'antilope et commence à les manger. Pourquoi est-ce que se mouve l'animal? Et il disait, parce que en voyant l'antilope, il se voyait soi-même en les mangeant. Alors, dans la vision de lion, il y a quelque chose en plus qui n'est pas présent, mais qu'il sera présent. Et pourquoi cela? Parce que le lion voyait depuis le désir. C'est grâce au désir que maintenant il peut se voyager en mangeant l'antilope. Et pour cette raison, il se lève, il commence à courir, il fait des actions, et toutes ces actions sont amenées à manger. Alors, il y a une connaissance si attractive pour le lion que maintenant il se lève, il commence à courir, il fait des actions. Il y a une connaissance attractive, si attirante. Bien, Thomas d'Aquin, en lisant ce livre, il disait, mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Parce que le lion est en train de voir quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui sera possible par des actions qu'il fera. Alors Thomas d'Aquin disait, le même c'est pour l'homme. Il y a une connaissance si attractive de la fin que maintenant j'ai fait des actions. C'est toujours la fin qui nous attire. Et pour l'homme, disait Thomas d'Aquin, c'est le bien de la vie. Les différents biens qui font grande et belle la vie. Ça veut dire la possibilité de vivre en communion avec les autres, de former une famille, de construire les biens communs d'une société, de trouver la vérité. Alors, il y a une connaissance si attractive de ces fins que maintenant j'ai fait les choses. Et ça veut dire que quand nous voyons les mêmes que le lion, voyez l'antilope, quand nous voyons le pouvoir, quand nous voyons la nourriture, quand nous voyons le sexe, quand nous voyons l'économie, nous voyons des choses qu'ils ne sont pas encore, mais ils seront. Nous voyons la nourriture et nous voyons la possibilité d'une convivialité. Nous voyons le sexe, mais nous voyons la communion. Il n'y a plus de ce que nous sentons. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pour Thomas d'Aquin, c'est la possibilité de voir les choses envisageant les fins, la fin. Et pour Thomas d'Aquin, c'est comme un élan que la raison fait dans notre sensibilité. C'est un élan, l'élan de la raison. Mais afin que cet élan puisse nous amener aux biens fondamentaux de la vie, nous avons besoin des vertus. Les vertus sont la transformation de notre sensibilité, de nos pouvoirs, de nos yeux, d'une façon que maintenant nous pouvons voir tout dans cet élan de la raison que cherche la fin. Bien, pour cette raison, qu'est-ce qu'il se passe? La possibilité de ordonner les pouvoirs, l'économie, les sexes à quelque chose qui est plus grand d'eux, c'est quelque chose que nous devons construire dans notre vie. C'est une construction que nous faisons. Bien. C'est une ordination de tous les dynamismes de notre agir dans une façon que le même que le lion s'élève, commence à courir, saute sur l'antilope et commence à mordre. Le même, nous faisons des actions qui sont tous ordonnées à quelque chose de plus grand. Pour cela, il y a un élan, l'élan de la raison, que c'est possible grâce aux vertus. La fin, c'est le principe d'unité pour l'homme. Nous avons unité dans notre vie parce que nous cherchons le même fin dans toutes les choses. Bien, c'est ce que Thomas d'Aquin disait. Mais lui, en regardant l'expérience des saints, il disait, mais n'est-ce pas seulement la fin, le principe d'unité? Parce que quand nous voyons les saints, nous voyons qu'il agit, bien sûr, en cherchant un fin, mais c'est la fin qu'elle a trouvée. C'est la fin qu'elle a trouvée au sein. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train maintenant de penser sur la réflexion de ce que c'est l'amour. Pour lui, l'amour, c'est une passion. C'est passif. Et pour lui, l'amour, c'est une union affective. Ça veut dire affective ici n'a rien à voir avec les sentiments, mais c'est la transformation du cœur. Les spécialistes disent que Saint Thomas a mis quelques chansons du Trovateur dans la somme de théologie. En écoutant les chansons de Trovateur, il a écouté Troubadour. Merci bien. Troubadour. En écoutant les chansons de Troubadour, il s'est rendu compte de quelque chose qui est si grand dans l'amour, comme l'aimer est pressant dans les mains. C'est français? Excusez-moi. Comme l'aimer est pressant au-dedans de l'aimé. Ça veut dire, pour lui, l'amour, c'est la présence de l'aimé au-dedans de l'aimé. C'est le don d'une présence. Alors, en voyant l'agir des saints, saint Thomas se rend compte qu'il y a une source. C'est la présence de l'aimé. C'est la présence de l'Esprit Saint. Et pour cela, il parle de la charité comme un certain amitié entre l'homme et Dieu. Et de cette façon, il voulait expliquer la charité, pas dans le même sens que Pierre Lombard. Pour Pierre Lombard, les théologiens, les grands théologiens, la charité, c'est le lien de l'Esprit Saint au-dedans de nous. Le lien de l'Esprit Saint. Mais pour Thomas d'Aquin, il dit c'est trop. C'est trop. Parce que si j'ai besoin de la charité pour avoir des mérites, pour répondre à Dieu, Dieu doit me donner quelque chose qui soit moi, qui soit même, qui soit de moi-même, pas seulement de lui. Alors il dit, c'est la charité n'est pas seulement l'élan de l'Esprit Saint, mais c'est proprement l'amour que Dieu me donne, c'est cette amitié, cette amitié. Bien. La charité, alors, n'est-ce pas une question seulement de l'élan de l'Esprit Saint, mais c'est une question d'amitié. Alors, la charité n'est pas seulement une question de bienfaisants, comme Luther disait. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, la charité, c'est les choses que je fais pour les autres. C'est bien. Mais la charité n'est pas seulement des choses que je fais pour les autres. La charité, c'est l'amitié que Dieu fait avec moi. Et qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Que nous, quand nous parlons d'amitié, nous parlons d'une relation affective, sentimentale. Nous sommes amis quand il y a une réciprocité affective, sentimentale. Mais pour Thomas d'Aquin, rien de grand. Pourquoi? Parce qu'il suivit Aristote, et Aristote, la question la plus importante dans l'amitié, n'est-ce pas les sentiments, mais les biens que nous partageons. Les biens que nous partageons. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Ils se rendent compte que Dieu nous a partagé avec nous quelque chose qui appartient à lui. C'est l'Esprit Saint. Et ce don de l'Esprit Saint, quand il vient à nos cœurs, maintenant transforme nos cœurs et fait que nos cœurs soient semblables à ceux du cœur du Christ. C'est une présence qui transforme l'homme. Et fait devenir, parce que les amis sont tous les deux en alter ipse, l'un de l'autre. Alter ipse. Qu'est-ce qu'il se passe alors? Cette amitié, Thomas est en train de la voir pas seulement comme la fin de l'agir, mais comme l'origine, la source, la présence de l'Esprit Saint. Maintenant, c'est l'origine de l'agir. L'union avec Dieu n'est-ce pas seulement la fin de notre agir, mais c'est l'origine. Il y a une présence d'Esprit Saint au-dedans de nous qui fait possible tout le dynamisme de l'agir. Bien, cette question de l'union avec Dieu, expliquée comme la charité, et la charité expliquée comme une amitié avec Dieu, peut nous aider à répondre à cette ambiguïté d'aujourd'hui dans laquelle l'union avec Dieu est vécue ou est comprendue comme une question de sentiments religieux, comme des mouvements intérieurs que nous vivons au-dedans de nous. Mais c'est vrai que l'union avec Dieu a quelque chose à voir avec les sentiments religieux et quelque chose avec les mouvements intérieurs. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans les contextes relativistes dans lesquels nous nous trouvons? Cette union avec Dieu n'a rien à voir avec le Créateur. Le contexte relativiste nous pousse à nous méfier de la vérité de la création, c'est-à-dire de la vérité des biens humains fondamentaux et même de la vérité de la révélation. Ce qui importe dans cette expérience pseudo-mystique, ce n'est pas le logos ou l'ordre qu'elle transmet, mais c'est plutôt les sentiments qu'elle suscite. Sainte Thérèse avait dû réagir clairement contre cette tentation toujours présente. L'union à Dieu, à ses yeux, devait se faire non pas à partir des locutions intérieures qui pouvaient se présenter, mais plutôt à partir de l'union des volontés. C'est-à-dire à partir de la concorde avec Dieu dans notre agir. Notre culture relativiste considère cette union à la volonté de Dieu de façon émotionnelle et se concentre tout particulièrement sur des sentiments tels que la compassion ou la bienveillance à l'égard de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une volonté divine qui passe pour le logos de la création, car la création est muette. Elle ne nous parle pas d'un dessein divin. Le corps humain, lui aussi, est muet, tout comme la différence sexuelle qui le constitue, ainsi que les relations qu'il permet d'établir. Il s'agit d'une matière étendue, d'un corps plastique pouvant être façonné, dont la forme sera déterminée par ce que chacun veut et ressent. C'est précisément là que demeure la cause de l'écroulement de notre civilisation et du court-circuit de l'expérience chrétienne. La proposition avancée par Sainte Thérèse, qui consiste à nous concentrer sur l'union des volontés dans l'agir, exige plus que jamais l'union au logos de cette volonté divine. La concorde avec Dieu exige l'acceptation du logos de la création et du logos de la rédemption. Sans cette acceptation, il n'y a pas de véritable concorde et par conséquent de véritable union à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de vouloir ce que Dieu veut, mais surtout de le vouloir pour ce que Dieu le veut. et comment Dieu veut que nous le veillons, tel qu'il l'a exprimé dans la création et dans la révélation. La tentative d'une voie pseudo-mystique, au-delà de la raison, entraîne une fuite de la réalité qui rendra impossible l'union avec Dieu. Il me semble que sur ce point, Thérèse peut nous aider vraiment. Bien. Alors, le lion voit l'antilope. Et en le voyant, il voit plus. La personne, en voyant les biens humains, le pouvoir, l'économie, le sexe, voit quelque chose de plus grand, la possibilité d'une vie heureuse, d'une vie pleine, laissant. Parce qu'au-dedans de lui, c'est l'Esprit Saint qui transforme son cœur et l'unit à Dieu. En voyant les biens humains, il est en train de voir plus. Ça veut dire une façon d'agir avec les biens humains dans lesquels c'est unir à Dieu. Et cette possibilité, cette connaissance que nous donne la charité, c'est le don de la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? La charité transforme la sensibilité humaine. Nous donne des jeux au mieux, donne à ce jeu une nouvelle sensibilité pour voir la fin à laquelle Dieu nous appelle. Ça veut dire
jeu, c'est les yeux.
Merci, mon père.
Nous donne de jeux, c'est les oros.
Merci. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? C'est la connaissance pour le lion, c'est une connaissance si attractive que fait que le lion s'élève, la connaissance de l'union avec Dieu est si attirant qui nous amène à agir. Le don de la sagesse, alors, n'est-ce pas seulement une connaissance qui nous amène à aimer, mais c'est un amour qui nous amène à connaître. Vous savez que dans les temps de Saint Thomas, était des explications du don de la sagesse, l'explication de Bonaventure et l'explication de Thomas d'Aquin. Pour Thomas, pour Bonaventure, ce que c'est important dans ces dons d'Esprit Saint de la sagesse, c'est que c'est une connaissance qui nous fait que notre cœur remercie Dieu, que notre cœur puisse aimer les autres, puisse aimer Dieu, bien sûr. C'est une connaissance qui amène à aimer. Pour Thomas d'Aquin, la question la plus importante de la sagesse, de la nouvelle sagesse, c'est que c'est un amour qui nous amène à connaître. Qu'est-ce que nous connaissons avec ces dons que l'Esprit Saint génère au-dedans de nous. Nous connaissons que Dieu nous attire dans l'attraction des biens humains. C'est le bon Dieu qui nous attire. Mais nous connaissons aussi les liens de toute la réalité à Dieu. Nous voyons que toute la réalité est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu pour nous. C'est un amour qui nous amène à connaître. Et maintenant, nous connaissons les choses dans la vraie réalité, liée à Dieu. De cette façon, les saints voyaient comment le bon Dieu est en lui attirant vers soi-même, dans toutes les réalités, dans tous les biens humains. La charité fait possible que nos yeux parviennent à voir la liturgie cosmique. Ça veut dire les chants de toute la création. Grâce à cette présence de l'Esprit Saint, il sera possible de reconnaître les mouvements que l'Esprit lui-même imprime sur toute la création. Théophile d'Antioche avait déjà décrit les mystères. Dieu a établi la terre sur les eaux et lui donne le principe de vie en un mot qui vivifie tout par son esprit, car s'il le rappelait à lui, tout rentrerait dans le néant. C'est par cet esprit, ô homme, que vous parlez. C'est par lui que vous respirez et vous ne le connaissez pas. Mais c'est grâce à cette présence de l'Esprit Saint que fait possible cette connaturalité avec le Dieu créateur et rédempteur et ouvre nos yeux pour connaître les liens de la réalité avec Dieu. La création cesse d'être muette et elle chante en symphonie l'ordre que le Créateur a imprimé en elle. Bien. Le lion voit l'antilope. Nous voyons les biens humains. Et de la même façon que le lion se voyait soi-même en les mangeant, nous voyons les biens humains en nous voyant nous-mêmes dans la communion avec Dieu. Parce que nous avons la charité. Parce que nous savons l'union avec Dieu au début de notre agir. Et cette présence de l'Esprit Saint inaugure une connaturalité qui ouvre nos yeux. Bien. L'oraison mentale n'est autre chose qu'une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul avec lui, dont nous savons aimer. Ce temps que Saint Thérèse donnait au bon Dieu fait possible peu à peu qu'elle s'ouvre à la gratitude. C'est important pour elle. De se voir soi-même comme quelqu'un qui est aimé et qui a reçu des cadeaux du bon Dieu. La prière dans la proposition de Sainte-Thérèse ne nous sort pas de la vie, mais au contraire, elle permet d'y faire face avec un regard de nouveau et avec un cœur qui s'ouvre à la reconnaissance. Bien. Qu'est-ce qu'il se passe alors? C'est pour Aristote la possibilité de voir, ou bien dans les biens humains, la possibilité d'un accomplissement de la vie, d'une plénitude de la vie, des biens fondamentaux pour la vie. Ça veut dire voir le sexe, voir la nourriture, voir le travail comme une possibilité d'une communion, d'une construction de la société, de la famille. Et pour cela, c'est l'élan de la raison, grâce aux vertus, pour les saints, c'est grâce à l'élan de l'esprit. C'est cet élan de l'esprit qui vient de la présence de l'esprit au-dedans de nous, ça veut dire de la charité. Et cet élan de l'esprit impulse la raison à arriver à l'union avec Dieu, à chercher l'union avec Dieu. Les dons de l'Esprit Saint ont besoin des vertus. Et les vertus sont mises au-dedans d'une dimension nouvelle, d'une impulsion nouvelle. Cette impulsion de l'Esprit Saint. La charité a toujours besoin de la prudence. Toujours. Ça veut dire, la charité a toujours besoin de la raison. Ça veut dire, la charité, toujours, nous amène au logos. Au logos. Nous amène au logos. La charité est au début de l'action, pas à la fin. C'est la possibilité de commencer quelque chemin. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Le logos de nos actions est toujours le logos d'un coagir réciproque. Toutes nos actions sont en relation avec les autres. Et avec cette vision de l'agir humain comme un co-agir humain, maintenant nous pouvons comprendre que la charité, grâce à la prudence, nous amène à un co-agir réciproque dans lequel pouvoir nous communiquer pas seulement un bien humain, mais aussi un bien divin. La vision que saint Thomas a de la charité et de cet élan que la charité fait au-dedans de nous, c'est formidable. Il voyait que grâce à la charité, nous aimons l'autre personne, pas seulement pour lui-même, pour elle-même, mais que nous l'aimons afin que lui ou elle soit un Dieu. Pour qu'il soit un Dieu. C'est la nouvelle façon d'aimer l'autre. Afin que toi sois un Dieu, afin que toi puisses remplir ta vie en Dieu. Et pour cela, la prudence m'amène à construire des actions, et dans cette action, tu peux trouver Dieu. ces actions sont des pratiques. Des pratiques dans lesquelles nous cherchons des biens humains et dans lesquelles se fait présent le bien divin. Dieu est présent dans nos œuvres. Et nous communiquons Dieu dans nos œuvres. De cette façon, ces pratiques, quand elles deviennent quelque chose que nous acceptons, deviennent tradition. Pourquoi alors la charité est la source des minorités créatives? Étant donné qu'elle découle de la présence de l'esprit et qu'elle offre une attraction intense de Dieu qui nous appelle par les biens humains, elle est en mesure de générer des pratiques communes à vivre ou vivre l'union à Dieu. La charité n'est pas un sentiment agréable, mais c'est le véritable moteur de la vie, parce qu'elle nous pousse concrètement à construire des arches de Noé. De Noé. Ou nous permettant de vivre l'excellence de l'humain. Et donc de pouvoir atteindre l'union à Dieu et de la transmettre. McIntyre, ce philosophe américain, terminait son célèbre ouvrage « Après la vertu » par un rêve. Il voyait des ressemblances entre la fin de l'époque romaine et notre Occident décadent, où l'idéal de l'excellence se réduit à survivre et à avoir des sentiments. Son rêve reflétait un espoir. Aujourd'hui, disait-il, nous souhaitions un nouveau Saint-Benoît qui, par de nouveaux modèles de vie communautaire, puisse recueillir le meilleur de cette tradition et enclencher de nouvelles pratiques d'excellence. Mais il me semble que nous tous avons un autre rêve. Nous pourrions identifier des ressemblances entre l'époque de Sainte Thérèse et la nôtre. Pendant ces temps, en Europe, le nominalisme était si présent. Aujourd'hui, c'est le relativisme, faisant perdre toute confiance en la raison. Et aussi, dans cette époque, était le luthéranisme, inaugurant une autre manière communautaire de vivre. Elle fut, Sainte Thérèse, en mesure d'offrir une excellence nouvelle dans cette petite maison qu'elle fondait. Alors, nous aussi, aujourd'hui, nous souhaitions une nouvelle Thérèse qui, à partir de la grandeur de l'union à Dieu, comprise depuis la charité, soit capable d'offrir de nouveaux modes de vivre communautairement dans lesquels pouvoir vivre aussi l'excellence de l'humain. Merci bien.
Notre reconnaissance est grande. Je n'ai rien à ajouter. Sauf peut-être que pour les personnes qui sont intéressées par cette démarche dont nous sentons à la fois la profondeur et l'urgente actualité, le père Noriega reviendra en février pour des journées d'études plus spécifiquement consacrées aux minorités créatives. Un très grand merci, Padre. Muchísimas gracias.